Le beau idéal. Il y a deux sortes de beau idéal, le beau idéal moral et le beau idéal physique. L'un et l'autre sont nés de la société. L'homme très près de la nature, tel que le sauvage, ne le connaît pas. Il se contente, dans ses chansons, de rendre fidèlement ce qu'il voit. Comme il vit au milieu des déserts, ses tableaux sont nobles et simples. On n'y trouve point de mauvais goût, mais aussi ils sont monotones, et les actions qu'ils expriment ne vont pas jusqu'à l'héroïsme. Le siècle d'Homère s'éloignait déjà de ses premiers temps. Qu'un Canadien perce un chevreuil de ses flèches, qu'il le dépouille au milieu des forêts, qu'il étende la victime sur les charbons d'un chêne embrasé, tout est poétique dans ses mœurs. Mais dans la tente d'Achille, il y a déjà des bassins, des broches, des vases. Quelques détails de plus, et Homère tombait dans la bassesse des descriptions, ou bien il entrait dans la route du beau idéal en commençant à cacher quelque chose. Ainsi, à mesure que la société multiplia les besoins de la vie, les poètes apprirent qu'il ne fallait plus, comme par le passé, peindre tout aux yeux, mais voiler certaines parties du tableau. Ce premier pas fait, ils virent encore qu'il fallait choisir, ensuite que la chose choisie était susceptible d'une forme plus belle ou d'un plus bel effet dans telle ou telle position. Toujours cachant et choisissant, retranchant ou ajoutant, ils se trouvèrent peu à peu dans des formes qui n'étaient plus naturelles, mais qui étaient plus parfaites que la nature. Les artistes appelèrent ces formes le beau idéal. On peut donc définir le beau idéal, l'art de choisir et de cacher. Cette définition s'applique également au beau idéal moral et au beau idéal physique. Celui-ci se forme en cachant avec adresse la partie infime des objets, l'autre en dérobant à la vue certains côtés faibles de l'âme. L'âme a ses besoins honteux et ses bassesses, comme le corps. Et nous ne pouvons nous empêcher de remarquer qu'il n'y a que l'homme qui soit susceptible d'être représenté plus parfait que nature et comme approchant de la divinité. On ne s'avise pas de peindre le beau idéal d'un cheval, d'un aigle, d'un lion. Ceci nous fait entrevoir une preuve merveilleuse de la grandeur de nos fins et de l'immortalité de notre âme. La société où la morale parvint le plus tôt à son développement dut atteindre le plus vite au beau idéal moral, ou ce qui revient au même, au beau idéal des caractères. Or, c'est ce qui distingue éminemment les sociétés formées dans la religion chrétienne. Il est étrange, et cependant rigoureusement vrai, que tandis que nos pères étaient des barbares pour tout le reste, la morale, au moyen de l'Évangile, s'était élevée chez eux à son dernier point de perfection, de sorte que l'on vit les hommes, si nous osons parler ainsi, à la fois sauvages par le corps et civilisés par l'âme. C'est ce qui fait la beauté des temps chevaleresques et ce qui leur donne la supériorité tant sur les siècles héroïques que sur les siècles tout à fait modernes. Car si vous entreprenez de peindre les premiers âges de la Grèce, autant la simplicité des mœurs vous offrira des choses agréables, autant la barbarie des caractères vous choquera. Le polythéisme ne fournit rien pour changer la nature sauvage et l'insuffisance des vertus primitives. Si au contraire vous chantez l'âge moderne, vous serez obligé de bannir la vérité de votre ouvrage et de vous jeter à la fois dans le beau idéal moral et dans le beau idéal physique. Trop loin de la nature et de la religion sous tous les rapports, on ne peut représenter fidèlement l'intérieur de nos ménages et moins encore le fond de nos cœurs. La chevalerie seule offre le beau mélange de la vérité et de la fiction. D'une part, vous pouvez offrir le tableau des mœurs dans toute sa naïveté, un vieux château, un large foyer, des tournois, des joutes, des chasses, le son du cor, le bruit des armes, n'ont rien qui heurte le goût. Rien qu'on doive ou choisir ou cacher. Et d'un autre côté, le poète chrétien, plus heureux qu'Homère, n'est point forcé de ternir sa peinture en y plaçant l'homme barbare ou l'homme naturel. Le christianisme lui donne le parfait héros. Ainsi, tandis que le Tasse est dans la nature, relativement aux objets physiques, il est au-dessus de cette nature par rapport aux objets moraux. Or, le vrai et l'idéal sont les deux sources de l'intérêt poétique, le touchant et le merveilleux.